Bonjour à tous. Ce matin, je voulais apporter quelque chose que j'avais à cœur ces derniers temps. Et Jean-Grand nous a parlé d'ailleurs il y a 2 semaines, je crois, sur l'amour et les différents termes qu'on utilisait pour dire aimer. Et c'est vrai qu'on a un peu une pauvreté dans la langue française à ce sujet. On a un seul verbe pour tous les types d'amour. Et ce matin, j'avais comme l'idée de vous apporter quelque chose concernant le cœur. Alors le cœur, on est tous d'accord que c'est là où généralement on situe les sentiments, on situe l'amour. Alors d'un point de vue anatomique, je sais pas trop si c'est bien là qu'ils sont situés, mais dans toutes les expressions qu'on peut entendre, à droite et à gauche, on est bien d'accord que on place tous les sentiments amoureux notamment, à l'endroit du cœur. Généralement, si vous échangez des smileys avec des petits cœurs avec quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un que vous appréciez. Même on fait une différence entre le cœur et le cerveau. On connaît tous ce proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et puis parfois, on sait qu'on agit sur un coup de cœur plutôt que sur une réflexion poussée. Mais que dit la Bible à ce sujet? Alors, je pourrais vous lire des tas de versets. Parce qu'il y a des tas de versets qui parlent du cœur, justement, et je vous invite à les lire chez vous. Je vais en partager quelques-uns ce matin. Et le premier verset qui m'est venu, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » C'est dans Proverbe. Et déjà, c'est important parce que on place le cœur au-dessus du reste. On doit le garder plus que toute autre chose. Et on place en lui les sources de la vie. Tout à l'heure, je disais, c'est là où on place l'amour, c'est là où ce verset nous dit qu'on place les sources de la vie. On a l'impression que on a tous un cœur pur, n'est-ce pas? Et que dedans, il n'y a que des choses bonnes. Ce verset nous dit bien que c'est de là que jaillit les sources de la vie. Et bien d'autres versets nous parlent encore du cœur. Mais je vais vous lire quelques versets dans Matthieu 15, à partir du verset 6 jusqu'au verset 19, mais je vais en sauter quelques-uns si vous voulez suivre. Et je vais vous montrer que quand Jésus a parlé du cœur, il n'a pas parlé exactement comme cette vision un peu idéalisée qu'on a de ce lieu plein de sentiments bons et purs. Donc c'est Jésus qui parle et qui dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. » Les scellés, ce sont des gens aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous êtes vous aussi encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Pas le même discours, hein. Alors est-ce que votre cœur est la source de l'amour, de la vie? Ou est-ce que c'est la source de tout ce qui va souiller, ce qui sortira de votre bouche? Et cette liste est assez claire que on n'a pas spécialement un cœur pur. Notamment là, Jésus s'adresse à des hommes qui, détournant le message divin, entraînaient les gens à suivre des commandements humains, mais pas à suivre correctement Dieu. Ne pas se concentrer simplement sur qui il était, sur la gloire qu'on devait lui rendre, sur la louange qu'on devait lui apporter, mais simplement se dire: voilà, bah aujourd'hui tu fais rien, c'est le jour du sabbat. Voilà, tu dois amener tel sacrifice parce que c'est telle fête. Se concentrer sur les actes uniquement, sur des paroles vides, peut-être pas vides de sens, mais vides en termes de profondeur. Des paroles qui ne venaient pas du cœur, des paroles qui venaient simplement de ce que les gens aimaient entendre. Alors ce matin, je pourrais vous dire des choses que vous aimez entendre. Je pourrais vous dire des tas de choses merveilleuses. Je pourrais dire des choses que je ne pense pas. C'est facile, non ? Notre société nous apprend cela. Et quand vous allez voir quelqu'un, vous allez toujours dire des choses que vous ne pensez pas. Comment tu me trouves avec cette robe ? Oh, c'est super, ça te va très bien. Quand vous invitez quelqu'un à manger, tu as aimé ? Oh, c'était parfait, je me suis régalé. Ça vous est déjà arrivé, non ? Alors, heureusement, dans certaines situations, et quand on aime vraiment, on a cette capacité de dire à l'autre, franchement, c'était pas très bon. Je me souviens d'un repas que j'avais fait pour Christine. Tu peux sortir si tu veux. Lors d'une Saint-Valentin, je m'étais cassé la tête à cuisiner tout l'après-midi, à faire des tas de trucs. Au final, elle avait apprécié que l'entrée. Et elle me l'avait confié. Ce qui était une bonne chose parce que cette entrée, je lui ai resservi des tas de fois. Alors que le reste, plus jamais. Mais c'est vrai qu'au final, on pourrait se dire, non mais par amour, je vais lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Mais est-ce vraiment de l'amour ? Et ces hommes qui pouvaient faire des prières au coin des rues avec des belles paroles, certainement des prières mieux que ce qu'on peut faire nous un dimanche matin, avaient pas vraiment compris le message de Dieu. Ils n'avaient pas compris que c'est pas ce qui sort de la bouche qui est important, c'est ce qui vient du cœur. On a cette impression parfois fausse. Quand on lit par exemple Adam et Ève, on se dit « Adam et Ève, ils sont purs, c'est le diable qui arrive et qui amène le péché. » Et parfois on a l'impression dans nos vies qu'on a le cœur pur et que c'est le diable qui vient nous amener à pécher. Et on oublie bien que la plupart du temps, le péché, le diable, il n'a même pas besoin de nous pousser. Ça vient de nous-mêmes, ça vient de notre propre cœur. Alors que dire ce matin ? Est-ce que je vais vous dire des belles paroles en disant « Votre cœur, c'est la source de la vie. Vous avez le cœur pur. » Ou bien je vais vous dire « Dans votre cœur, il y a les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Est-ce qu'il n'y a pas un peu des deux ? Dans ces derniers mois, j'ai eu à cœur, en entendant des prédications et dans mes lectures, de me poser la question, est-ce que mon cœur est tout entier à Dieu ? Jésus nous dit dans sa parole, dans Matthieu 22, quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement ? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est le début. De toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ce que Dieu nous invite à faire, c'est aimer. Et aimer de tout notre cœur. Est-ce que ce matin, vous aimez Dieu de tout votre cœur ? Est-ce que ce matin, votre cœur est entier pour Dieu ? Dans mon téléphone portable, j'ai une batterie avec un pourcentage à côté, c'est pratique. Là, par exemple, actuellement, je suis à 91%, donc je suis tranquille. Je suis serein, je sais que, a priori, je vais pouvoir finir le culte avec mes notes devant moi. Et est-ce qu'on pourrait avoir une application comme ça qui nous dirait à combien de pourcents on est pour Dieu ? On serait à combien ce matin ? Combien vous estimeriez-vous ? Alors on pourrait se dire, ah, les anciens dans l'église, ceux qui ont plus d'expérience, ils doivent être dans les 90%. Et puis les jeunes dans la foi, peut-être 10-15%, mais ça progresse, c'est ce qui compte. À quel moment vais-je m'inquiéter pour mon téléphone portable ? À quel pourcentage de batterie vais-je commencer à me dire « Là, faudrait peut-être que j'aille le recharger. » Si je vous pose la question, vous attendez d'arriver à combien de pourcents ? 50 ? Plus ? Moins ? 35 ? 18 ? On attend souvent d'être assez bas. Et à combien de pourcents attendez-vous pour aller recharger vos batteries auprès du Seigneur ? Est-ce qu'on peut dire « Oh, 90%, je suis bien. J'ai pas besoin de lire ma Bible ce matin, je suis bien. » Pas besoin de prier ce matin. Eh, hey, 90%, il y en a plein qui sont en dessous. Non? 50%, ça va. J'ai le temps encore. Je peux finir ce que j'ai à faire et puis plus tard, j'accorderai du temps à Dieu. Ce serait pratique hein, d'avoir cette application-là sur nous. Et je pense qu'on se rendrait compte que bien souvent, on est plus près de 50, voire plus bas que de 100%. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et il nous disait plus haut, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Alors comment faire ? Qu'est-ce qu'on penserait d'un homme qui, le jour de son mariage, regarde passer les invités, les demoiselles d'honneur, se dit « Ah, oh, elles sont jolies celles-là. » On penserait quoi d'un tel homme ? On se dirait « Bah dis donc, pas bien compris le sens du mariage. » Et vous êtes venu ce matin à l'église. Est-ce que vous n'avez regardé qu'à Dieu ? Est-ce que depuis votre lever ce matin, toutes vos pensées sont tournées vers Dieu ? Toutes vos paroles, tous vos actes sont dans le but de servir Dieu et d'apporter sa parole sur terre. C'est facile pour moi de juger là devant vous. Je me mets dans l'eau également. À quel moment on peut se considérer comme étant l'épouse de Christ si en effet nous on passe notre temps à regarder tous ceux qui passent ? Et le monde qui nous propose plein d'autres choses pour remplir notre cœur, que ce soit des plaisirs, que ce soit des soucis. Lisez les journaux ou regardez un petit peu en ce moment ce qui peut se passer. On a de quoi s'occuper la tête, on a de quoi s'occuper le cœur avec plein de choses. Mais à quel moment vous avez entendu le mot Dieu dans tout cela ? C'est facile pour moi ce matin de me mettre devant vous et de dire « Votre cœur n'est pas tout entier à Dieu ». Mais il y a là un mystère qui est un peu dur pour moi qui suis porté sur les mathématiques. Comment mon cœur pourrait-il être à 100% pour Dieu ? Et dans ces 100%, comment après je pourrais mettre ma femme, mes enfants, mes amis, mes collègues ? On est tous d'accord que techniquement on ne dépasse pas 100%. Ça, c'est sur terre. Mais de la même façon, comment pourrais-je dire si j'ai un nouvel enfant qui arrive, bon bah maintenant, le premier ça va être 50, le deuxième ça va être 50, un troisième, mince, 100 ça se divise pas en 3. Ah mais il y a ma femme aussi, bon je vais mettre 50 pour ma femme, 25 pour mon premier enfant. Est-ce qu'on calcule comme ça ? Est-ce que vous allez pouvoir dire à votre femme, bah je t'aime un peu moins parce que j'ai des enfants aussi à aimer et tu vois, enfin j'ai un quota à pas dépasser ? La base, c'est pas d'aimer ce monde ou ce qui est sur ce monde, la base, c'est d'aimer Dieu à 100%. Et une fois qu'on aime Dieu à 100%, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » ? Tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Mais est-ce que ça s'arrête là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu en premier. C'est ça vers quoi on doit tendre, le 100% avec Dieu. Lui accorder toute la place. Et en fait, aimer notre prochain, notre femme, notre famille, aimer nos ennemis, ce qui nous fait mal. Bah si on aime Dieu à 100%, ça va couler de source. Mais à partir du moment où on commence à mettre d'autres choses, à partir du moment où dans notre cœur on commence à laisser de la place à d'autres sentiments, bien, ça va devenir dur d'aimer notre femme. Il y a des moments où j'ai pas envie de l'aimer. Je pense que tous ceux qui sont mariés connaissent ça. Il y a des moments où, bon, bah, on se dispute un peu, on n'est pas d'accord, il y en a un qui est têtu, et puis on est tous les deux têtus. Il y a des moments où j'ai pas envie d'aimer mes enfants. Je rentre fatigué du travail, et puis ma fille a fait une bêtise. Pff, pas besoin de ça, hein. Il y a des moments où j'ai pas envie d'aimer mes collègues. Il y a des moments où j'ai pas envie d'aimer mon chef. Il y en a souvent des moments comme ça. Ou quand je conduis, est-ce que j'aime mon prochain qui, sur la route, me passe devant, alors que je roule à la bonne vitesse, moi. Je ne peux pas aimer parfaitement tous ceux que j'ai à aimer si déjà, dans un premier temps, je n'aime pas Dieu à 100%. La Bible nous le dit bien, nul ne peut servir de maître. Et c'est la même chose, hein, si je commençais à dire à Christine, écoute, tout va bien entre nous, mais je vais ramener une deuxième épouse. Ça te fera moins de boulot à la maison, elle va t'aider dans toutes les tâches ménagères, et puis ça fera une nouvelle rentrée d'argent, moins d'impôts, on va déclarer une part en plus, super. Plein de raisonnements humains peuvent venir, il n'y a que des intérêts à ça. D'un point de vue humain, bien sûr. Et si on faisait la même chose avec Dieu ? Dieu, écoute, je te sers, je t'aime, tout va bien avec nous, on s'entend bien, mais je vais ramener d'autres choses. Je vais ramener des raisonnements humains, je vais ramener d'autres dieux. Dans ce verset de « on ne peut servir de maître », je vais ramener l'amour de l'argent. Mais t'inquiète pas, je t'aimerai toujours autant. Je pense que ma femme m'accueillerait pas spécialement bien. Elle ne se dirait pas « chouette ». Moins de travail à la maison. Bien au contraire. Je pense que de la même façon, Dieu ne nous accueillerait pas spécialement bien non plus. Et il nous dit bien, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. À qui choisissez-vous de vous attacher ? Alors comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? D'avoir un cœur tout entier pour Dieu. Comment est-ce possible d'arriver à 100% pour Dieu ? C'est facile à dire. Est-ce facile à faire ? Si on reprend la parole, est-ce que vous connaissez un personnage biblique qui était à 100% pour Dieu ? On en connaît un, je crois. Jésus. Si on met Jésus de côté, un instant, dans tous les autres, vous en connaissez un ? À chercher, hein, moi j'ai eu tout mon temps. On peut citer le grand roi David. Roi David qui d'ailleurs, quand il a été choisi, Dieu a dit « je vais choisir un serviteur selon mon cœur ». Il n'a pas été choisi au pif. Un roi qui aurait pu porter la main sur le roi précédent plusieurs fois et aurait pu accéder au trône plus rapidement. Et en plus, légitimement, il avait le droit de le faire, il avait été choisi, il avait été oint. Ce grand roi David qui a composé la plupart des psaumes dont sont inspirés aussi la plupart de nos cantiques. Il y a un moment où il a laissé son cœur humain passer avant. Alors il y a un moment, je suis certain qu'il n'y en a pas qu'un, mais la Bible nous en a mis un en avant. Et comme on lisait tout à l'heure, c'est de là que vient le meurtre et les adultères. Eh bien, notre grand roi David a sombré à ce moment-là. On peut regarder comme ça tous les personnages bibliques un par un et voir leurs défauts. C'est un côté rassurant, moi j'aime bien ça, parce que je me dis, mine de rien, ouf, j'ai le droit d'être imparfait. Parce que Dieu n'a pas foudroyé David sur l'instant. Il a été puni, certes, mais il est resté dans le cœur de Dieu. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à écrire des psaumes derrière. On a un personnage seulement dans toute la Bible qui a eu un cœur à 100% pour Dieu. Au point de ne pas faire ce qu'il voulait faire, mais au point de faire ce que Dieu voulait. Si on vous laisse le choix demain, et qu'on vous dit voilà, on te propose une situation, tu n'as pas à travailler. Et tu es payé bien plus que tout ce que peut gagner les autres, tout ce que peuvent gagner les autres. Tout le monde se prosternera devant toi. Tu seras le personnage le plus important du pays, voire de la terre. Et tu n'auras rien à faire. C'est la position de roi que Jésus aurait dû prendre. Il aurait dû arriver comme ça. Tous se seraient mis à genoux, se seraient écrasés. Quand ils sont venus le chercher dans le jardin où il priait, et qu'il a dit « c'est moi », tous sont tombés à terre. Cette armée qui était venue avec des épées, des bâtons et autres, un mot de sa bouche, ils étaient tous par terre. C'était facile à ce moment-là d'esquiver ce qui était prévu. C'était facile pour Jésus de revendiquer une royauté auquel il avait droit. C'était facile pour lui de dire « Vous me devez tous l'adoration qui m'est due. » Mais parce qu'il avait un cœur pleinement centré sur Dieu, sur son Père, il a choisi. Il a bien répondu « C'est moi ». On l'a lu tout à l'heure, il a bien dit à Pilate « Je suis roi ». Mais à aucun moment il n'a revendiqué les bénéfices de cette royauté. Nous, les premiers, on revendique. Pas que les Français. J'ai le droit au chômage, j'ai fait tant de temps. J'ai le droit à la sécurité sociale, remboursez-moi. J'ai le droit à la protection. Vous connaissez les droits de l'homme. On a des tas de droits. Et on les revendique tout le temps. Et en ce moment, des gens revendiquent dans la rue en disant « J'ai le droit à ma liberté, je fais ce que je veux. » Ah, on peut revendiquer tous les droits qu'on veut. On est très fort pour ça. Jésus n'est pas venu sur terre revendiquer ses droits, il est venu nous montrer comment être, comment servir et comment se consacrer 100% à Dieu. C'est un objectif qui est un peu haut pour nous, n'est-ce pas ? Mais en même temps, si on se met des objectifs trop bas, quel intérêt ? Si demain je me dis je vais me remettre au sport et j'ai envie de courir le 100 mètres en 15 minutes, je vais éclater mon objectif. Je vais être fier de moi. Hey, je l'ai fait en une minute. 15 fois moins que ce que j'avais prévu. C'est facile de se mettre des objectifs bas. Et si je commence à me dire je vais courir le 100 mètres en 15 secondes. Déjà plus difficile, mais ça reste faisable. Et puis petit à petit, je baisse la barre. La Bible utilise cette image et nous dit de courir comme pour remporter la course. Il ne s'agit pas d'un petit footing de convenance, on est bien, il fait beau, il fait frais, je trottine, je fais du sport. Mais il s'agit de courir de toutes nos forces. Alors ce matin, est-ce que j'ai un cœur 100% pour Dieu ? Est-ce que j'ai un cœur selon Dieu ? Si je vous posais la question, vous me voyez de l'extérieur. Vous dites, il est devant, il prêche, il cite la Bible. Oh, il doit avoir un cœur selon Dieu. J'ai mis une chemise ce matin, vous avez vu ? J'en mets pas souvent. Ma femme pourra vous le dire. Je me suis coiffé, rasé. Tout va bien. Mais que nous dit Dieu ? Il nous dit de ne pas regarder à l'apparence. Mais à regarder à quoi ? Dans 1 Samuel... L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Qui peut dire ce matin, en regardant son voisin ou sa voisine, « Lui, il a un cœur selon Dieu. » Est-ce à l'apparence qu'on va le juger ? Il est venu à l'heure. Il s'est bien habillé. Il a chanté les chants avec force et conviction. Il a prié au moment de prière. Certainement, il a un cœur selon Dieu. Toutes ces choses-là, les gens dont Jésus parlait au début, ils le faisaient. Et peut-être mieux que nous. Ils étaient certainement là à l'heure, voire même en avance à la synagogue. Ils priaient. Ils chantaient. Ils connaissaient la Bible peut-être mieux que personne à l'époque. Toutes ces choses-là, ils les faisaient. Pourtant, derrière, c'était vide. Comment savoir si quelqu'un a un cœur selon Dieu ? La Bible nous dit, c'est au fruit. Qu'on reconnaît l'arbre. Ce n'est pas à ce qu'on voit, mais c'est à ce qui est à l'intérieur. Dans 1 Pierre 3, il rajoute « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Voilà notre but. Est-ce que vous avez un cœur tel que celui-là ? d'une pureté incorruptible, avec un esprit doux et paisible. Je peux avoir un esprit doux et paisible dimanche matin. Je suis sûr, par exemple, que notre frère Joël a un esprit doux et paisible. Et Martine pourrait nous citer des moments de sa vie où il était peut-être moins doux et moins paisible, n'est-ce pas? Et inversement. Et on pourrait prendre chacun d'entre nous ce matin. Mais alors comment? Comment arriver à ce but? Parce que c'est facile de dire « voilà ce que vous devez faire ». Si je dis à ma fille « c'est un vélo, avance ». Elle me dit « mais comment ? Mais va là-bas, je te dis où aller. » Elle ne saura pas l'utiliser. Comment le faire ? On a des réponses dans la Bible. Il y a des moyens d'y arriver. Romains 10 nous dit, souvent quand vous avez des questions, lisez Romains. Il y a beaucoup de réponses. Lisez le reste aussi, hein, mais Romains c'est bien aussi pour ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le confesser c'est bien, mais si on ne le croit pas, dans notre cœur, il y a un problème. La base du salut est là. Croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus des morts. Croire dans notre cœur qu'il s'est donné par amour pour nous. Que tous nos péchés, toutes nos impuretés qui souillent notre cœur sont enlevés. Sont enlevés par grâce, par le sang qu'il a versé sur nous à la croix. Évidemment, si on en reste là, il nous manque une partie aussi. Est-ce qu'après on le confesse de notre bouche? Ou est-ce que comme un homme qui aurait trouvé un trésor, je vais le garder pour moi. Qui aujourd'hui va trouver un trésor et va dire « Eh, venez tous, servez-vous, j'ai trouvé un trésor. » Vous réagiriez comment? Vous tombez sur un coffre plein d'or. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez le distribuer à tous? Est-ce que vous allez le garder pour vous, le mettre sur un compte? Et vous réjouir en voyant le montant de votre compte en banque? Et laisser pourrir là cet argent jusqu'à la fin? Alors je pense que ceux qui gagnent des millions au loto ou à l'euro-million doivent bien en donner un petit peu à droite à gauche. Mais je pense qu'à la fin de leur vie, ils doivent rester certainement quelques millions encore qu'ils ne vont pas emporter avec eux. Est-ce que nous gardons ce trésor pour nous ou est-ce que nous le confessons? C'est deux choses simples. Ce matin, qu'on a à faire. Simple, comme toujours dans la parole, ça l'est toujours. Ça peut l'être en apparence, mais c'est parfois compliqué. C'est facile de confesser Jésus à ma femme qui croit en Dieu, et qui sera encline à dire Amen à tout ce que je pourrais dire quand je lui cite un verset. Mais mon voisin qui est hostile, ou mon collègue qui est athée convaincu, c'est plus difficile d'aller le convaincre. Tout comme si je remonte un petit peu dans mes notes, c'est facile d'aimer ses enfants. C'est plus difficile d'aimer ses ennemis. Est-ce que ce matin, nous avons un cœur 100% pour Dieu? Est-ce que ce matin, nous avons un cœur selon Dieu? Dieu ne nous invite pas par nos propres efforts à devenir parfait. Et il ne s'agit pas ce matin de tous vous culpabiliser en disant « Vous n'êtes pas parfait, faites plus d'efforts. » Mais Dieu nous invite simplement à le laisser entrer, à lui laisser la place. Et c'est difficile. Et moi qui suis devant vous, ça fait des années que je suis chrétien, et pourtant, avec l'expérience, je pourrais me dire que ma foi augmente, mes connaissances augmentent, que ce pourcentage dont je parlais tout à l'heure, il ne doit faire qu'augmenter. Et au final, plus le temps passe, plus l'expérience est là, et plus je me rends compte que il y a de nouvelles choses que je découvre, qui sont ancrées bien profond dans mon cœur, et que j'ai du mal à lâcher. Dans mon métier de professeur, je peux dire que quand je regarde avec du recul les premières années où j'enseignais, je me dis, j'étais pas très bon au début, hein. J'ai fait plein d'erreurs. Mais maintenant, avec l'expérience, je me dis, tout va bien. Je suis bien noté par mes supérieurs. L'inspection me fait confiance même pour former d'autres professeurs. J'ai eu une stagiaire l'année dernière. Mais tout ça, c'est humain. On a l'impression qu'avec le temps, avec l'expérience, on devient de plus en plus fort. Et l'orgueil est là. Mais avec le temps, quand on progresse devant Dieu, quand on avance, on se rend compte qu'il y a de nouveaux obstacles. Un peu comme dans le voyage du pèlerin, si vous connaissez cette histoire. Il ne s'agit pas d'un voyage où le début est difficile, puis après tout roule. Il s'agit d'un voyage où tout du long, il y a des luttes et des combats. Mais on a une promesse merveilleuse pour nous aider le long de ce chemin. Quel que soit le nombre d'années d'expérience qu'on a avec Dieu, quel que soit le nombre de choses qu'on a encore dans notre cœur et qui devraient en sortir, on a cette belle promesse dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est pas simplement Jésus qui a promis à ses disciples, je vous enverrai le Consolateur. Déjà dans Ézéchiel, Dieu nous annonçait cet esprit qu'il allait mettre en nous. Sans cette action de Dieu, sans cet esprit en nous, c'est compliqué d'avoir un cœur à 100% pour Dieu. Je dirais même c'est impossible. Je pourrais mettre toute la bonne volonté du monde, je n'aimerais jamais à 100% ma femme. Désolé, tu la prends comme ça. Je ne l'aimerais jamais 100% du temps. Il y aura toujours des moments où parfois l'amour tourne à autre chose. Sans l'aide de Dieu, sans son Saint-Esprit, il nous est impossible d'aimer Dieu à 100%. Jésus n'est pas venu juste pour dire « Je vous aime, vous êtes tous beaux, vous êtes tous merveilleux. » Il est venu dire des choses et même ses disciples et les gens disaient « Mais cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Il est venu dire la vérité. Et la vérité fait mal parfois. Mais il est venu aussi nous dire de belles choses, nous donner de belles promesses, et notamment, je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai un Consolateur. Alors ce matin, je vous invite à cette introspection que j'ai commencée il y a quelques mois, où je me pose la question, est-ce que mon cœur est à 100% pour Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois virer de là? Est-ce qu'il n'y a pas des raisonnements humains? Est-ce qu'il n'y a pas des situations où je laisse qui je suis prendre le pas sur ce que je devrais faire? C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais que j'aime bien. Quand j'ai mal à la tête, j'ai le réflexe de faire quoi? Prendre un doliprane. Et je lutte contre ça en me disant, ben non, dans un premier temps, je devrais faire quoi? Je devrais peut-être prier Dieu. Et dans tous les soucis du quotidien, généralement, j'ai une réponse toute faite, humaine, qui sort. J'ai de l'intelligence. Dieu m'en a donné. Je peux trouver des solutions. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire? On l'a bien vu, hein. Josué, il a fait tomber une muraille énorme avec Jéricho. Et après, il oublie un petit peu de consulter Dieu et puis part à la bataille. Et c'est la défaite. Alors l'histoire du Doliprane peut faire sourire, et je suis absolument pas contre les aspirines. Mais dans notre quotidien, même dans les petites choses, est-ce qu'on n'a pas ces réflexes humains, ces raisonnements humains qui viennent parfois couper la place à Dieu. Je terminerai ce message et je vous encouragerai, tout comme moi, à chercher à augmenter votre pourcentage, à chercher à laisser davantage de place pour Dieu, à viser le 100%. Pourquoi se contenter de viser des choses simples à atteindre? Et je vous laisserai ce dernier verset dans Psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Faisons nôtre ces versets. Et comme dit la parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Sachons nous concentrer sur l'essentiel, et le reste viendra naturellement.